Thème du Poussin, l'histoire d'Orphée et d'Eurydice est une des plus obsédantes. Venue de l'Antiquité, reprise au Moyen-Âge et pendant la Renaissance, elle traverse des siècles sans s'altérer comme l'histoire d'Antigone, de Phèdre, d'Édipe et de Jocaste, d'Ariane à Naxos. Les hommes n'en finiront pas de broder sur un drame qui se prête à d'innombrables interprétations poétiques, lyriques, théâtrales, ou cinématographique. Dans le tableau qui nous occupe, le peintre n'accorde aux deux jeunes héros qu'une place apparemment minime. La première idée est que la scène pourrait tout aussi bien se passer d'eux. On sait le goût du Poussin pour la nature qu'il aime peindre glorieuse et dont les historiens d'art, comme Louis Gillet, diront qu'il la révéla au maître italien de son époque, ce qui n'est pas tout à fait vrai si l'on songe qu'un siècle plus tôt, Giorgione a déchaîné la nature dans la tempête ou l'adoration des mages. La nature, telle que la peint le Poussin, étonne par son éclectisme. Certes, les ruines, les châteaux, les maisons patriciennes et la lumière ocrée évoquent le Latium ou la Toscane, mais la végétation est d'un climat plus tempéré. Majestueux chênes, fins bouleaux élancés, tapis de fleurs des champs, épais buissons de lauriers. Nulle part ne se dressent des cyprès, des pins, des oliviers, peut-être même des palmiers, signe d'une ambiance méditerranéenne, ni ces plantes grasses qui poussent dans les endroits les plus arides de la campagne romaine et sur les côtes tyrrhéniennes. Les paysages du Poussin restent de pure imagination. Bien qu'il ait résidé dans la cité des papes la majeure partie de sa vie, son imagination reste imprégnée du charme poétique et gracieux de la Normandie où il a vécu son adolescence. Il y a une douceur normande comme il y a une douceur angevine. L'extrême richesse de la verdure, ici représentée, se conçoit mal sous le soleil brûlant du printemps et de l'été romain, quand le Tibre ou l'Èbre sont presque à sec. Avec hauteur, le Poussin repousse toute idée d'identification. Le monde auquel il donne naissance sur sa toile est filtré par lui, emportant au passage des bribes d'images et de souvenirs qu'il gardait précieusement ou même inconsciemment. La belle courbe de la Seine aux Amblis, la puissante végétation de ses rives protégées par des falaises crayeuses et, toujours posé sur son piton, château gaillard qu'il travestit, tantôt en ruine gréco-romaine, tantôt en château Saint-Ange. Personne ne songe à lui demander où se situent en Italie les décors qu'il peint pour ses scènes théâtrales. Il est libre dans son propre royaume. Puisque l'imagination est un droit aussi sacré pour les peintres que pour les écrivains, il a parfaitement raison d'imposer son réalisme inspiré. Le temps aidant, ce réalisme imaginaire sera plus vrai, plus envoûtant qu'un plat vérisme, comme le monde inventé par Balzac est à nos yeux, avec 150 ans de recul, plus proche de la vie que le même monde, mais péniblement reconstitué avec une patience d'ébéniste par les historiens auxquels il manquera toujours la passion et l'émerveillement. Delacroix, dans son essai sur le Poussin, parle de paysages poétiques et vrais. Ce qui intéresse dans notre tableau, c'est sa parfaite unité quand on le compare à d'autres, comme Apollon amoureux de Daphné ou une charmante personne périlleusement assise sur la fourche d'un jeune chêne est une pièce évidemment rapportée. De même pour la nymphe couchée à demi-nue à la droite de la nourrice de Jupiter. On sait que le Poussin, comme un metteur en scène, préparait minutieusement son travail avec des collages, des boîtes en carton percées d'ouvertures pour les effets de lumière, des figurines de cire qu'il peignait ou habillait d'étoffes légères. Ainsi apparaissent de temps à autre des personnages, des décors qu'il n'a pas su se refuser et dont l'adéquation n'est pas parfaite, ni même parfois la proportion respectée. Dans son superbe essai « Regarder, écouter, lire », le professeur Claude Lévi-Strauss a noté la même indifférence de Seurat à l'égard de l'échelle des personnages dans une toile comme la Grande Jatte. Indifférence encore plus sensible, me semble-t-il, dans le pont de Courbevoie. Dans Orphée et Eurydice, tout paraît au contraire baigné dans une rare harmonie qui donne à la scène à la fois son relief, sa profondeur et sa troublante diversité, sans rien lui retirer de son irréalité. Tout entier à son sujet, le peintre l'a serti dans un vivant décor. Et c'est là, peut-être, qu'il faut chercher la signification de cette scène épisodique dans la longue histoire de l'amour, de la musique, du chant des poètes et de la mort. Même fort chargé, le paysage est d'une simplicité quasi biblique. Il est à l'image de la vie quotidienne, peuplé de petits personnages soigneusement mis en place. Le drame important, qui donne son titre au tableau, est au premier plan. Mais au deuxième plan, les hommes s'activent, indifférents au chant sublime d'Orphée. Du château s'élèvent deux volutes de fumée. Prépare-t-on un grand festin dans les cuisines ou est-ce un début d'incendie? À peine note-t-on quelques silhouettes sur le chemin en rotonde de la première tour. Assis ou debout sur le glacis qui entoure les murailles, un berger et une bergère ne semblent guère s'affoler. On aperçoit quelques têtes qui dépassent la rambarde du pont sans bien discerner où elles regardent. Beaucoup plus intéressants et déjà plus proches sont les haleurs qui tirent assez curieusement par une amarre fixée en haut du mât une barque à peine lestée à bord de laquelle se tiennent trois bateliers aussi peu inquiet que possible de ce qui se passe au château. L'effort des haleurs donne une direction au courant du fleuve qui traverse le tableau et isole le musicien et ses amis du déroulement de la vie. Dans les maisons, à demi enfouies sous les frondaisons, les fenêtres ne sont pas aveugles. On aperçoit du linge de couleur, une tête. La vie est là. Enfin, un épisode charmant éclaire la droite du tableau. Six hommes, sans pudeur, se baignent dans le fleuve. L'un nage, l'autre s'apprête à plonger, les autres se déshabillent ou interpellent les mariniers à quelques brasses. Leurs vêtements, chemises et capes rouges et jaunes sont jetés en désordre sur les aspérités de la rive. Sur deux monticules se dresse une bâtisse qui semble inachevée, mais plus loin, un village fortifié, comme on en voit tant en Ombrie ou en Toscane. La lumière vient de la gauche, déjà rasante, ce qui permet de déterminer l'heure, une fin d'après-midi. Les colonnes de fumée s'échappant du château donnent la direction de la brise qui entraîne les nuages. Dans son détachement et sa simplicité, ce tableau pourrait aussi bien s'intituler « Les travaux et les jours ». La nature suit son cours régulier et saisonnier. Les hommes travaillent ou jouissent de la vie et d'un repos durement gagné. On aimerait entendre en sourdine un passage de la pastorale tant il y a d'harmonie dans l'ensemble. Le peintre de ce tableau aime non seulement la nature qui apaise son âme par sa grâce, son sérieux et sa majesté, mais il aime aussi les humains qui mènent leurs activités innocentes sans détonner dans la symphonie générale. Poussin, avant son départ pour Rome, avait appris le latin, ce qui d'ailleurs lui facilita grandement l'étude de l'italien. La courte scène des Géorgiques, où le drame brise le bonheur des jeunes épousés, Orphée et Eurydice, s'inscrivait naturellement dans un paysage d'Italie. Il semblait même au Poussin qu'elle n'avait pu avoir lieu nulle part ailleurs, mais là nous sommes dans un monde à deux temps. D'une part, le temps réel et présent, où les hommes accomplissent leurs travaux, se reposent, s'ébattent, se reproduisent et dorment quand la nuit tombe. D'autre part, un temps passé, beaucoup plus lent et désordonné, plus égotiste aussi, où des hommes et des femmes indifférent au reste du monde, à ses peines comme à ses plus frustes joies, s'enivrent de leur propre talent, se laissent ravir par la musique et le chant dans un univers irréel. Qu'on interroge sur leurs occupations ces artistes et ces bohèmes qui vivent pour la fête et ils répondront « Vivre, à quoi bon ? Laissons cela aux esclaves. » Un fossé, le fleuve, sépare les adorateurs d'Orphée, des haleurs, des bateliers, des bergers et des baigneurs. Les uns s'échinent au travail, meurent à la peine, voient sans cesse leur œuvre menacée par un incendie, une crue ou la guerre, se satisfont de plaisirs rustiques, comme la baignade, où un des personnages montre grossièrement ses fêtes aux nautonniers, tandis que les autres revivent, ou croient revivre, le retour des mythes que les générations précédentes leur ont laissé en héritage. La chute d'Icare, Sisyphe et son rocher, le supplice de Tantale, Prométhée enchaîné. Comme le Barnabas de Valéry Larbeau est l'homme le plus riche du monde, l'Orphée des Anciens et l'Ovide est le plus grand interprète-compositeur du monde hellénique. Il lui suffit de pincer une corde de sa lyre pour subjuguer les foules. Il n'est que poésie, et à ce titre, fascine les auditoires qui l'adorent à l'égal d'un dieu, ceux dont les dieux s'enfonceront. Sa réputation, peut-être encore plus que son talent, enthousiasme la jeunesse. Autour de lui s'est formé un groupe de jeunes filles et de jeunes gens qui le suivent comme un Till Eulenspiegel jouant de la lyre. Dans le langage de la jeunesse d'aujourd'hui, on les appellerait des fans ou des groupies. Orphée vient d'épouser Eurydice. Le prêtre qui les a unis, Hyménée, compagnon d'Héros selon la mythologie, qui peut-être confondait abusivement l'amour et le mariage, le prêtre est encore présent, debout, couronné de fleurs, si amplement drapé cependant qu'on hésite un peu sur son sexe. Symbolisant la foule des adoratrices, deux jeunes filles sont mollement assises au pied du poète, visage tourné vers lui, envoûté par son chant. Elles semblent n'avoir cure de l'intimité que, après leur mariage, Orphée et Eurydice pourraient souhaiter, et qu'en tout cas, Orphée ne semble guère pressé de ménager. La jeune mariée, elle, se tient légèrement à l'écart. Elle n'a pas conservé la couronne de fleurs qu'elle portait pendant la cérémonie. Elle s'est même probablement dépouillée de la cape pourpre qui reste accrochée à un arbre près des plats du pique-nique et de deux carquois. Alors qu'Orphée a lui gardé la couronne et la cape, bien qu'elle paraisse plutôt l'embarrasser quand il joue de la lyre. On le voit, l'interprétation du Poussin est tout à la fois méticuleuse dans les détails et très libre dans l'esprit. La magique histoire de ces deux amants malheureux n'a traversé les temps parce qu'elle pouvait s'enrichir de détails et de commentaires de siècle en siècle. L'apport du Poussin n'est pas un des moins intéressants. On y discerne même une certaine malice. Autant Eurydice nous paraît d'une émouvante et raphaëlesque beauté et sa frayeur d'une grâce exquise, autant Orphée n'est guère flatté. Couronné de fleurs, les yeux levés au ciel, il a l'air d'implorer la muse de lui souffler une inspiration en panne. En fait, il joue pour lui-même et pour les trois personnages les plus proches. Eurydice, indifférente, s'est écartée pour cueillir des fleurs, des champs. Son bouquet est dans un panier qui s'est renversé quand le serpent l'a mordu à la cheville. Tout laisse à penser que le chant de son mari ne la captive pas autant qu'il captive les groupies au pied du poète. Le Poussin a-t-il pensé à l'attitude de sa propre épouse devant son travail de peintre? C'est fort possible. Il n'y a pas de grand homme pour sa femme. Quant à Orphée, son narcissisme est flagrant. À l'instant où il pince les cordes de sa lyre, il s'isole du reste du monde pour entrer dans des transes sacrées. Un peu moins grisé par son inspiration et sa propre voix, il aurait pu dire à sa toute jeune femme de regarder où elle posait les pieds. Évidemment, cette mise en garde remettait tout en question. pour rester fidèle à la fable recueillie par Apollonius de Rhodes, il faut que la mort frappe Eurydice avant que la vie commune ou que les succès remportés par Orphée auprès des dryades de la forêt ruinent leurs amours. On voit cependant mal le poussin se livrer à ces variations sacrilèges. À peine ajoute-t-il quelques nuances au rapport classique de ces deux êtres et suggère-t-il qu'ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde, si je puis me permettre d'utiliser cet anachronisme. L'hypersensibilité du musicien est succinctement indiquée par son attitude extasiée. Platon, déjà, le trouvait bien efféminé, laissant planer un doute sur la suite du mariage. N'allons pas juger jusque-là, bien que tout révisionnisme soit intéressant et même souvent fructueux pour la survivance d'une fable. La seule certitude, c'est que le poussin ne laissait rien au hasard. Le tableau, comme nous l'avons vu, est séparé en deux par le fleuve. Or, au premier plan, s'est glissé un personnage qui appartient beaucoup plus à la vie de la rive gauche qu'à la vie de la rive droite réservée aux élus. Tandis qu'Orphée enchante son petit monde, Eurydice cueille des fleurs sauvages pour peut-être décorer la nappe blanche du pique-nique. Un jeune homme pêche à la ligne, quelques pas à peine derrière elle. On voit à sa simple tunique, à sa forte musculature, à ses cheveux courts, que c'est sans doute un homme du peuple venu sur cette rive où les haleurs, les cris des bateliers et les joyeusetés des baigneurs ne perturbent pas son temps. Peut-être même croit-il ce jeune homme, comme le veulent certaines traditions populaires, que les brochets, les truites, les carpes se laissent charmer par le murmure d'une musique paradisiaque. C'est bien vrai en mer des dauphins, alors pourquoi ne le serait-ce pas des poissons d'eau douce? Les carpes sont muettes, personne n'a dit qu'elles étaient sourdes. Il est probable qu'il prête lui-même l'oreille au chant d'Orphée tout en restant attentif à la flottaison de son bouchon. On peut épiloguer à l'infini. Qui est cet intrus? La rive du fleuve est à tout le monde, mais une réserve naturelle propre à la dignité innée du peuple italien retient les baigneurs et les mariniers de venir se mêler aux invités du mariage, comme ce serait le cas si Bruegel l'Ancien avait peint la noce. L'étrange est que la fête suivant le mariage semble avoir été réservé aux intimes du jeune couple. Un romancier est tout de suite tenté d'interpréter la présence insolite du pêcheur et d'imaginer en lui un ancien soupirant écarté par Eurydice le jour où elle a succombé au charme d'Orphée. Ce que nous voyons est parfaitement clair. Eurydice a poussé un cri d'effroi et de douleur. Ni son époux, ni les trois autres invités ne l'ont entendu. Il plane. Encore heureux, il ne se retourne pas, posant un doigt sur les lèvres et murmurant « chute ». Le pêcheur a seul perçu le cri de douleur d'Eurydice. À l'instant où le peintre l'a saisi, il vient de tourner la tête et d'apercevoir la vipère qui s'enfuit après avoir lâché son venin. La suite dépend de notre tournure d'esprit. Mais la présence de cet athlétique jeune homme n'est sûrement pas fortuite dans la mise en scène du peintre. Ainsi, au-delà de l'anecdote, le poussin a-t-il ouvert la porte aux interprétations les plus diverses des esprits mal tournés? Pour nous, restons-en là. Ces deux autoportraits sont à cet égard significatifs. Si dans l'un, celui peint pour Jean Pointel en 1649, une sorte de bienveillant amusement détend les traits de son autoritaire visage, dans l'autre, celui peint par Paul Fréard de Chanteloup, l'expression est vive, le regard presque courroucé, comme d'un homme dont on trouble le soleil, le sommeil ou la méditation, alors que c'est lui-même qui s'interrompt en se peignant devant un miroir. À mon sens, le deuxième et sévère portrait est le plus significatif. L'homme qui nous fixe dans les yeux n'est pas seulement un habile facteur, un maître conscient de son orgueilleux génie. C'est aussi un homme qui a, dans la solitude, abordé des rivages inconnus, dialogué avec des puissances ou ténébreuses ou radieuses. On imagine aisément que l'énigmatique profil de femme, visible derrière lui, sur un tableau à demi caché par un cadre, et l'image de la Minerve casquée qui le guidait dans le monde où les fables s'incarnent. La connaissance est un gouffre sans fin. On en revient, quand on en revient, illuminé ou fou. Plus on contemple ce portrait, plus on se persuade que l'homme qui s'est ainsi peint de face, sans complaisance, est un médium. Médium au sens où on l'entend d'un poète qui capte des messages, les décode pour les éclaircir, ou au contraire, les livre bruts, gros de mystères qu'il dédaigne d'expliciter. À nous de rêver ou de refuser. Plus la pose est hiératée, que plus belle est la forte main d'artisan ornée à l'auriculaire droit d'une bague en serrant un diamant et son mystérieux chaton pyramidal. Plus cet homme, malgré les apparences, se révèle un anxieux. À son protecteur, Chanteloup, il écrit de Rome « Je ne suis point homme léger, ni changeant d'affection, quand je l'ai mise dans un sujet. » Dans la vie, l'intime conviction de sa grandeur le trouve d'abord conciliant à l'égard des puissants, pour ne pas dire serviable, puis soudain révolté. On le condamne, dit-il, à des travaux mineurs qui reportent à des lendemains incertains ce pourquoi il a été omis au monde. Il a tant de fois peint la mort, mort d'Adonis, de Narcisse, de Priam, d'Hippolyte, du Christ, qu'elle est sans cesse présente à son esprit, impérieuse statue du commandeur, lui rappelant la brièveté de sa mission d'artiste. La mort, cependant, le fera attendre 71 années, un bel âge pour cette époque, bien que les deux dernières aient été empoisonnées par les séquelles du mal napolitain ou du mal français selon le côté de la frontière où on se situe. Un artiste croit n'avoir jamais tout dit, comme il a dû envier le Titien mort, dit-on, à 99 ans et de la peste. De la mélancolie si digne, si noble, qui imprègne l'étoile d'avant la cinquantaine, on passe insensiblement à une angoisse de plus en plus oppressante. Le temps va-t-il lui manquer? Toute œuvre ambitieuse aspire à la durée humaine. L'éternité est sa grande frayeur. Au bas du tableau, qui fut probablement le pendant du tableau d'Orphée et Eurydice, un homme est étouffé par un serpent. Ce serpent, qui dans la symbolique de nombreuses religions, figure tantôt le mauvais principe, tantôt le bon, parfois les deux ensemble. On croit le serpent immortel, parce que levé sur lui-même, il est le cercle parfait, sans fin, le signe de l'éternel retour du temps. À maintes reprises, le serpent apparaît dans l'œuvre du Poussin, mordant Eurydice, menaçant le pharaon, caché dans un pommier du paradis, mort et enroulé autour d'un chêne, tandis qu'Apollon séduit Daphné, approchant deux innocentes nymphes, se dédoublant pour grimper à un arbre ou gagner un rocher qui le sauvera du déluge. Certes, rien de ce que l'on sait du Poussin ne permet de le soupçonner d'offiolatrie. Mais l'image est là, insidieuse, insistante, troublante, l'image de l'animal par qui le péché originel s'est accompli, précipitant les hommes hors du paradis et que seul l'art sauve du désespoir. La richesse et la variété des thèmes traités par le Poussin a suscité beaucoup d'interrogations. Parce qu'il a quitté l'école à 15 ans, on a mis en doute sa culture, ou au contraire, on s'est extasié sur ses connaissances de la mythologie, de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la littérature latine, en particulier d'Ovide, sans peut-être songer qu'il appartenait à une époque où les humanités faisaient partie du bagage naturel de tout jeune lettré partant pour Rome. Le Poussin fut au premier degré un peintre littéraire, au talent et à l'imagination fiévreusement enrichis par les courants d'idées qui exaltaient les hommes de sa génération et par les fables qui nourrissaient leurs songes et réveillaient leurs craintes.